On se retrouve pour cette troisième session de l'école biblique. Et aujourd'hui, nous ensemble, nous allons cheminer avec Joseph. Joseph, un des fils de Jacob, qu'on a étudié la dernière fois. Et on va procéder, comme l'a dit le père Gabriel, comme la dernière fois, dans l'ensemble général. Mais pour Joseph, je vais vous le présenter d'une manière un petit peu différente que Jacob. Et pour ça, je vais utiliser les travaux d'un théologien anglo-saxon qui s'appelle Robert Newton et qui a fait un travail remarquable. En fait, il s'est intéressé à plusieurs dizaines, même centaines de personnages de la Bible. Et il s'est posé la question suivante. Il s'est dit, tous ces personnages qui vivent dans des contextes différents, dans des histoires différentes, à des moments différents, est-ce que ces hommes de foi ou ces femmes de foi, est-ce qu'il y a dans leur vie des motifs récurrents qui, bien évidemment, pourraient être dans notre vie à nous? Et la réponse, et c'est sa thèse, c'est que oui, il a trouvé que tous ces personnages, avec des variations énormes dans le temps, dans la durée, etc., traversaient un certain nombre d'étapes dans leur vie, jusqu'à une vocation épanouie pour certains, pour d'autres ça se termine un petit peu plus mal. Et c'est ce que je vous propose de faire avec Joseph, qui est un exemple remarquable de quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa vocation. Et bien évidemment, quand on fait cet exercice, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer, c'est de se demander comment ceci résonne dans notre propre vie. Et est-ce que nous aussi, nous voyons que nous traversons un certain nombre d'étapes dans notre vie de foi? On vous l'a dit, l'opportunité de cette école biblique, c'est de s'intéresser aux personnages qui nous disent beaucoup de Dieu et qui nous disent aussi beaucoup de nous-mêmes. Alors voilà, on va partir dans ce voyage avec Joseph. Et oui, on va traverser un paysage, on va faire une randonnée, on va monter, on va descendre, on va traverser des vallées, on va traverser des plateaux. Et notre ami Joseph, pour ceux d'entre vous qui ont l'opportunité de lire son histoire, on voit bien que c'est un jeune garçon qui est bourré de talent. Il fait l'admiration de ses parents, en particulier de son père. En fait, on sent bien que Joseph est le préféré de Jacob. Pourquoi ? Probablement parce que, vous savez, Jacob a plusieurs épouses, mais celle qu'il aime, c'est Rachel. Il a eu du mal à pouvoir l'épouser. Ça a pris beaucoup de temps, parce que son beau-père ne voulait pas la laisser partir. Et au début, elle est même stérile, puis elle a des filles, mais ça prend beaucoup de temps avant qu'elle ait un garçon. En fait, Joseph aura 12 garçons entre Rachel, Léa et leur servante, mais Joseph arrive en avant-dernier. C'est le 11e dans la fratrie, et il y aura ensuite Benjamin qui vient de Rachel aussi. Et on sent bien que ce petit garçon, c'est le préféré de son père, que par ailleurs, il a beaucoup de dons, beaucoup de talents. Et en même temps, on sent qu'il a une certaine forme d'arrogance du fait de tous ses talents. Et que peut-être, quelque part, il se dit, en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, même s'il y en a 11 avant moi dans le droit des messes, pourquoi pas moi? Et on peut se dire, vu l'histoire de sa famille, c'est pas étonnant de se poser la question, parce que le droit des messes, comme on l'a vu avec les personnages précédents, il a été un peu malmené. Rappelez-vous, Ismaël, l'aîné d'Abraham, qui est mis de côté, tandis que c'est Isaac qui prend le devant. Bien évidemment, Jacob et Ésaü. Donc, pourquoi pas Joseph? Et il pense. Donc, il y a toute cette étape, cette première étape de son chemin. Alors voilà, à chaque fois, comme d'habitude, je vais vous présenter quelques tableaux anciens. Ça, c'est un tableau de Pontormo, un peintre maniériste italien, qui raconte en fait comme une bande dessinée toutes les étapes de la vie de Joseph. Alors, c'est trop petit pour qu'on aille voir les principales, mais on le voit là avec ses deux parents. Et puis, il porte cette magnifique tunique que son père lui a donnée, parce que c'est un petit peu le chouchou. Et il est peut-être en train d'interpréter les songes dont on va parler tout à l'heure. Mais donc, il y a cette première période de la vie de Joseph, qui est cette période de la croissance initiale, où tout paraît possible, où tout nous est donné. Et en même temps, il y a cette arrogance qui fait que Joseph va créer la jalousie de ses frères. Il a en particulier ces deux songes, pour ceux d'entre vous qui ont lu l'histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, ce songe que chacun des frères a une gerbe de blé et que les 11 autres se prosternent devant lui. Alors, vous imaginez bien, quand il va raconter ça à ses frères aînés, ça ne leur fait pas très plaisir. Qui plus est, il a un autre songe dans lequel il voit que 11 étoiles, la lune et le soleil, se prosternent devant lui, et il en conclut, même devant ses parents, qu'un jour sa famille se prosternera devant lui. Donc, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez ce petit garçon, et que la jalousie se développe chez les frères, et va même se transformer en haine. Et Joseph va faire alors l'expérience dans son chemin, de la première vallée, celle qu'on pourrait appeler la vallée de la dépendance. Je vous rappelle que Joseph est au moment où il est seul avec ses frères, et mis dans une citerne qu'on voit d'ailleurs sur ce tableau, par ses frères qui veulent le tuer. Heureusement, Reuben, l'aîné, les en empêche. Il se dit, tant qu'il est dans la citerne, je vais pouvoir le sauver. Il doit s'éloigner, et quand il revient, malheureusement, ses frères ont vendu Joseph aux Madianites. C'est Judas, en particulier, qui s'est occupé de cela. Et les frères, ne tuent pas Joseph, mais le vendent, et trempent sa fameuse tunique dans le sang d'un animal, et la rapportent à Jacob, qui est écloré. Ça, c'est un magnifique tableau de Velázquez, qu'on a pu voir à l'exposition Velázquez, quand il est venu à Paris. Jacob est désespéré parce que celui qu'il aimait n'est plus là. Donc Joseph traverse cette première vallée qu'on pourrait appeler la vallée de la dépendance, qui est le moment où, après cette période de phase initiale, on se rend compte à un moment de notre vie que oui, tout est possible avec Dieu, mais que sans lui, rien n'est possible. Et peut-être que pour chacun d'entre nous, on pourrait témoigner mutuellement d'avoir traversé à un moment de notre vie cette vallée, dans notre propre histoire. C'est le moment où nous comprenons que tous ces dons que nous avons reçus, toute cette grâce naturelle qu'a Joseph, n'ont de sens que si elles sont ancrées dans le Seigneur. Alors, Joseph est trimballé, il est en tant qu'esclave, il est vendu à un dignitaire du roi qui s'appelle Potiphar. Mais il est toujours très, très intelligent, très bourré de talent, et petit à petit, il va prendre sa place dans cette maison. Et passer la deuxième phase, vous voyez, cette phase qu'on représente comme un plateau, qu'on pourrait appeler la phase de préparation. Ça se passe donc chez Potiphar, et cette phase de préparation dans nos vies, elle peut durer des années, voire des dizaines d'années. C'est la phase durant laquelle Dieu nous donne de pouvoir développer nos talents et en même temps nous prépare à quelque chose de plus grand. C'est cette pédagogie du Seigneur qui nous permet de déployer ses talents au cours du temps, mais en vue de quelque chose de plus grand qui viendra plus tard. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire d'Esther. Je me souviens plus si on l'étudiera. Bon, peut-être, peut-être pas. Esther, c'est un des grands personnages féminins de la Bible, une juive qui est mariée au roi de Babylone. C'est Babylone ? Ou c'est... Oui, c'est le roi de Babylone. Et elle est juive, mais son mari ne le sait pas. Et il y a des persécutions qui se mettent en place contre les juifs. Et arrive ce moment où Mardochée, son beau-père l'interroge et lui dit, et en fait elle se dit, est-ce que toute ma vie de reine, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant n'a pas été faite pour ce moment-là où je vais risquer ma vie en allant dire au roi que je suis juive pour essayer de sauver mon peuple? Voilà un moment, voilà ce à quoi conduisent les périodes de préparation. Et peut-être que nous, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut reconnaître dans notre vie des périodes qui ont duré longtemps, pendant lesquelles on s'est préparé à quelque chose, mais qui s'est éclairé seulement beaucoup plus tard dans notre vie. Et durant cette phase de préparation, Dieu développe nos talents, Dieu développe nos compétences, mais notre caractère n'est pas encore tout à fait abouti. Et c'est ce qui se passe avec Joseph. qui, au sein de cette maison de Potiphar, devient en fait l'intendant. Tout lui est donné. Mais il va devoir traverser encore une autre vallée avant de pouvoir aller plus loin. Et la façon dont ça se passe pour lui, vous vous en souvenez peut-être, c'est que la femme de Potiphar, qui, selon ce tableau, était jeune et belle, voit ce beau jeune homme est amoureuse de lui, essaye de le séduire. Lui, qui est fidèle à Potiphar, refuse, mais malheureusement laisse son manteau dans sa fuite, et par vengeance, la femme de Potiphar prétend qu'il a essayé d'abuser d'elle. Évidemment, Potiphar n'a pas d'autre choix que de le jeter en prison, et ça va être là que va commencer la période suivante pour Joseph, qu'on pourrait appeler la vallée de l'intégrité. Je vous l'ai dit, Joseph a grandi en talent, mais son caractère n'est pas encore complètement formé. Il a besoin de passer par ce temps de l'intégrité. Il est jeté en prison donc, et pour de longues années. Parce que si on fait un petit peu des calculs, on y dit un peu plus tard que Joseph a 30 ans, donc il est bien possible qu'il ait passé 10 ans en prison. Mais en prison, du fait de ses talents, du fait de ses compétences, eh bien, il va aussi reprendre le dessus et de facto devenir celui qui organise la prison. Néanmoins, il n'a pas de liberté. Et on pourrait dire qu'il prend le leadership de cette prison et l'organisation. Et voici qu'arrivent deux prisonniers. Vous vous souvenez, ce sont des dignitaires du roi. L'un est l'échanson, c'est-à-dire celui qui sert à boire, et l'autre est le panetier, on pourrait peut-être dire le boulanger du roi, qui sont tombés en disgrâce du pharaon, qui sont tombés en disgrâce, et qui chacun, le même jour, font un rêve. Ils en sont préoccupés. Et Joseph, on le sait, a le don d'interpréter les rêves, et donc il leur propose de les interpréter. Il commence par celui du panetier, et il lui dit, dans 3 jours, tu seras libéré et remis à ta place. Par les chansons. Il lui dit, dans 3 jours, tu seras remis à ta place. Le panetier, encouragé par cette interprétation, lui demande d'interpréter son rêve. Malheureusement, Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras mis à mort. Et c'est exactement ce qui se passe. Et alors là, il y a un passage assez touchant où Joseph supplie à les chansons de parler de lui, ce qui est humainement bien compréhensible. Il dit, dis au pharaon qu'il y a cet homme qui peut interpréter les rêves. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant nos actions, ce n'est pas tant ce que nous faisons, même si nous le faisons avec beaucoup de brio. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur, et de savoir si notre cœur est prêt. Et probablement le cœur de Joseph n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt tant qu'il n'a pas traversé jusqu'à son terme cette vallée de l'intégrité. Et peut-être, nous aussi, dans notre vie spirituelle, nous pouvons discerner des moments. Ces moments de vallée d'intégrité. Ces moments pour lesquels nous ne comprenons pas pourquoi, parfois, durant des mois ou des années de plus, on a le sentiment que Dieu nous laisse un peu au fond du trou. En fait, c'est comme si le cœur de Joseph n'était pas complètement purifié. Il est à la fois abandonné à la volonté de Dieu, et en même temps, on a le sentiment qu'il se sent toujours assez propriétaire de ses talents et de ses tours, qu'on pourrait appeler des tours de saltimbanque, avec ses interprétations des songes. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Et il lui faudra attendre 2 ans de plus dans cette prison. Avant que, au moment du temps de Dieu, le pharaon ne fasse de rêve que personne n'arrive à interpréter et que les chansons se souviennent à ce moment-là de ce pauvre bougre qui est en prison et qui avait interprété son rêve. Et là, on peut se dire que ce qui est intéressant dans ce moment de nos vies spirituelles, c'est que ça soit, quand nous traversons ces périodes difficiles, Dieu nous laisse toujours libres. Et il nous laisse aussi libre d'abandonner, de baisser les bras et de s'arrêter là. Rappelez-vous Moïse, vous pensez à Moïse, lui-même Moïse, qui à un moment dit à Dieu, c'en est trop, et qui demande à Dieu de mourir. on a toujours cette liberté. En revanche, si, comme Joseph, on reprend confiance en Dieu, à ce moment-là, nous pouvons sortir de ces vallées. Alors, on sort Joseph de sa prison, et le voilà qui est devant le pharaon, ça je pense c'est un tableau pré-raphaélite, fin du 19e, et qui interprète les deux rêves. Alors pour ceux qui sont loin, vous ne voyez probablement pas, mais il y a des vaches à gauche dans le petit médaillon, et il y a des épis de maïs à droite, puisque les deux rêves du pharaon, vous vous souvenez, ce sont ces 7 vaches grasses qui sont mangées par 7 batteries vaches maigres, et ensuite 7 épis de maïs remplis de beaux grains qui sont ensuite brûlés. Et Joseph trouve l'interprétation de ses rêves. C'est très intéressant de voir d'ailleurs, il y a une, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais la façon dont Joseph parle de l'interprétation de ses rêves. Lorsqu'il est avec les prisonniers, quand il est jeune, il interprète juste ses rêves. Lorsqu'il est avec les prisonniers, il dit Dieu peut m'aider à interpréter les rêves. Et lorsqu'il est devant le pharaon, il lui dit vous n'avez pas besoin de moi, Dieu peut vous dire la signification de vos rêves. On sent qu'il y a eu une évolution dans son cœur sur cette appropriation de ces talents que Dieu lui a donnés. Hein, il est sorti de cette vallée de l'intégrité à ce moment. Et donc il interprète les rêves, tout le monde est impressionné, et il dit il va y avoir 7 ans d'abondance qui seront suivis de 7 ans de famine, et donc il serait sage que vous choisissiez quelqu'un d'intelligent et d'organisé pour préparer le royaume à cela. Et le pharaon, inspiré par l'Esprit Saint, nous dit la parole de Dieu, ce qui est intéressant, hein, lui qui est un païen, en tout cas plein de sagesse, dit mais qui mieux que toi qui vient d'interpréter ce rêve peut le faire? Et Joseph, du jour au lendemain, lui qui était au fond de sa prison, lui qui était au fond de cette vallée de l'intégrité, est propulsé au sommet de l'État, puisque hors pharaon, personne d'autre n'est aussi puissant dans le royaume d'Égypte. Et non seulement il obtient cette position, non seulement il gère efficacement le royaume, mais il va transformer par cette gestion l'Égypte en la puissance dominante de toute la région et du monde connu à l'époque. Et Joseph arrive à ce moment-là dans une nouvelle phase de sa vie dans laquelle on sent bien qu'il a envie de s'arrêter et de s'installer. Et on pourrait appeler cette phase la phase de l'envoi. Il a tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir, la richesse. On lui donne même une femme, dont il a 2 fils, et Manassé et Éphraïm. Tout lui sourit. Il est installé. Il est arrivé, il est comblé, et en même temps, ce n'est pas encore fini. C'est juste à ce moment-là que son passé va le rattraper. Souvenez-vous, la famine, donc, l'abondance puis la famine qui avait été prévue par Joseph se produit, et la famine touche non seulement l'Égypte, mais tous les pays avoisinants, en particulier le pays de Canaan, qui est un petit peu plus au nord, à droite sur la carte. Et Jacob et sa famille vont mourir de faim. Et Jacob dit donc à ses fils, allez voir, il paraît qu'il y a un super intendant en Égypte, allez le voir et achetez-lui du blé. Et ses frères de Joseph vont faire irruption dans sa vie. Il va les traiter comme... Alors, eux ne le reconnaissent pas, bien évidemment. Lui, il les reconnaît tout de suite. Et il va les traiter comme un grand intendant traite une bande de pouilleux qui vient demander... de l'aide, hein, en pratique. Il va leur dire qu'il ne les croit pas, qu'il pense que ce sont des espions, et on sent bien qu'il y a un déchirement qui se produit dans le cœur de Joseph à ce moment-là. Il est déchiré entre la haine et le ressentiment contre ses frères qui l'ont vendu, et en même temps, il est déchiré par l'amour de son pays, le souvenir de son père et de son frère cadet et de sa famille. Il est déchiré par ce passé qu'il voulait oublier, mais qu'il rattrape. Et c'est intéressant de voir qu'il avait nommé son premier fils Manassé, dont une des traductions possibles est l'oubli, celui qui lui permet d'oublier, tandis qu'Éphraïm veut dire la fécondité. Donc, tout d'un coup, il y a tout un tas de questions nouvelles qui font irruption dans la vie de Joseph, et il est perdu. Et sa première réaction, c'est probablement la colère qui l'envahit. Et puis il a envie de faire voir son petit frère Benjamin qui lui ne lui avait pas fait de mal. Et donc il imagine ce stratagème où il leur dit écoutez, je ne vous crois pas. Si vous voulez, j'ai besoin d'une preuve. Je garde l'un d'entre vous en otage, Siméon. Retournez dans votre pays et ramenez-moi Benjamin, pour ce petit frère dont vous m'avez parlé, pour que je vous croie. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va avoir l'occasion de le regarder dans le texte, mais il va y avoir toute une série de stratagèmes utilisés par Joseph. Il va faire remettre l'argent qui leur avait été payé dans les sacs. Donc, quand il les ouvre, les frères de Joseph ne comprennent pas. Ils se disent, c'est terrible, qu'est-ce qu'il va nous dire quand on va revenir. Jacob, évidemment, quand ils reviennent au pays de Canaan, ne veut surtout pas laisser partir Benjamin, parce que Benjamin, c'est son petit dernier, son petit chéri, il a déjà perdu Joseph, il ne veut pas perdre Benjamin. Et ce n'est que quand, poussé de nouveau par la famine, ses fils le poussent, qu'il dit, et que Judas, celui qui était probablement le plus coupable de tous les frères, puisque c'est lui qui avait vendu Joseph, Judas dit à son père, Jacob, laisse-moi partir, je suis garant en fait de la vie de Benjamin devant toi. Et devant la famine et cette promesse de Judas, Jacob les laisse partir. Ils reviennent une deuxième fois en Égypte, c'est d'ailleurs probablement cette scène-là qui est peinte ici, parce que vous voyez qu'ils ont des offrandes devant Joseph. Et Joseph est encore dans ce combat intérieur, et il va imaginer encore un stratagème. On sent qu'en fait, il a envie de garder Benjamin auprès de lui, et donc il les renvoie en faisant cacher sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin, il les fait arrêter en disant « Vous m'avez volé ma coupe ». Je m'arrête là pour cette petite histoire parce qu'on va la voir après. Mais on sent bien qu'il est déchiré, Joseph. Il est déchiré jusqu'au moment qu'on va étudier plus en profondeur. Pendant une longue période, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a eu ce premier voyage, il les a renvoyés au pays de Canaan, ils sont revenus. Tout ça, ça a pris plusieurs mois. Il y a ce grand combat intérieur qui, évidemment, est significatif. Il n'arrive pas à faire ce travail de pardon. Il y a au fond de Joseph cette question, au fond, qui suis-je ? Est-ce que j'ai été appelé à être le grand intendant d'Égypte, ou est-ce que je suis appelé à quelque chose de plus grand ? Et c'est pour ça que cette dernière vallée qu'il doit traverser, qui prend plusieurs mois à traverser, on pourrait l'appeler la vallée de l'identité. On avait vu avec Jacob comment cette question d'identité est une question fondamentale déjà. Et pour chacun d'entre nous, comment la question de notre vocation de baptiser est une question fondamentale. Et là, c'est quelque chose qui déchire le cœur de Joseph. Alors, pour en finir, et on va le voir plus précisément ensemble, Joseph se réconcilie avec ses frères, il dévoile son identité à ses frères. Tout est bien qui finit bien, il fait revenir Jacob et toute sa famille et son grand bétail, son petit bétail dans le pays de Goshen. Et en fait, on comprend à ce moment-là qu'il accomplit le destin que Dieu lui avait proposé. On peut parler de cette dernière phase de la vie qui est celle de la plénitude. C'est là qu'on comprend que toutes ces péripéties de cette vie de Joseph n'avaient qu'un but, c'est que la promesse faite à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, puis cette promesse de la croissance, la multiplication d'un grand peuple, qui semblait perdue avec cette famine qui tuait tout le monde, puisse se réaliser grâce à Joseph, puisque les Juifs vont pouvoir venir s'installer en Égypte, se croître et multiplier. Et donc, ce que je vous invite à faire après cette journée, si vous le voulez, c'est de faire résonner cette histoire de Joseph avec votre histoire et de vous poser la question, et puis c'est bien évidemment de demander à l'Esprit-Saint de vous éclairer sur les périodes de votre vie, ces passages qui peuvent se faire en généralement dans cet ordre, peut-être dans un ordre différent. C'est souvent pas facile de savoir où on se trouve dans ce chemin de foi. Parfois, il y a des moments qu'on voit bien qu'on a traversé. Mais il y a d'autres moments où on ne sait pas très bien où on se situe. Mais en tout cas, je pense que c'est un cadeau que nous fait le Seigneur de se mettre en prière et de lui demander de nous accompagner et de nous faire relire chacune des étapes de notre vie, des étapes significatives de notre vie de foi. à travers ce chemin de creux et de bosses dans lequel il est toujours avec nous. Peut-être à certains moments on se croit installé, on se croit arrivé, et en fait Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il nous reste à découvrir. On va s'arrêter là pour ce chemin de Joseph et nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Ah, ça c'est bien ça. Alors je vous propose comme d'habitude de se mettre...